بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ السير ان اسلام toutes les louanges reviennent à Allah رب العزة qui nous donne la possibilité de continuer ce soir notre programme dont l'objectif est d'étudier les sifat al-muttaqin, les qualités des pieux. Et depuis deux séances, on a vu le verset Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Et on a essayé de développer bi'idhnillah les différentes facettes et les différents points qui nous permettent de construire notre iman bil ghaib. Et on a vu que c'est essentiel. Essentiel, entre autres, c'est le dernier point qu'on a vu hier, pour être capable de mettre sa confiance totalement en Allah Azza wa Jal dans les situations de problèmes et d'adversité. Que très souvent, quand on mène une vie, mashallah, où tout se passe comme on le souhaite et qu'il n'y a strictement aucun problème, ben on trouve, mashallah, tous les croyants présents se disent musulmans, alhamdulillah, et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Tant mieux quand c'est comme ça. Mais lorsqu'il y a des épreuves et des difficultés, ben, malheureusement, ceux qui n'ont pas un iman solide et une foi bien ancrée, ben, ces personnes-là perdent pied et ils n'arrivent pas à développer le fameux « Wayyaka nasta'in » qu'on a expliqué hier. Le « Iyyaka na'budu » semblait être acquis parce qu'ils prient, ils lisent le Coran, ils font le hajj, ils donnent l'aumône, ils adorent Allah Azza wa Jal. Mais ils n'ont pas pu développer ces qualités intérieures qui permettent aux croyants de placer sa confiance totalement en Allah Azza wa Jal. Et donc, quand survient un problème, la personne ne sait plus comment réagir. Et parfois, la personne peut se retourner contre la décision d'Allah et remettre en cause le destin et arriver même vers une situation où elle prononce des paroles de kufr. Qu'Allah nous protège. Placer sa confiance en Allah, c'est, comme on a dit, ça émane de iman bil ghaib, c'est-à-dire que tu as une situation qui t'est défavorable. Une situation qui est totalement défavorable, c'est un problème de santé, ça peut être un problème familial, un problème au niveau du travail, un problème avec les enfants, les problèmes de la vie, des problèmes de la vie. Et la situation, elle est défavorable, tous les asbab sont contre toi. Mais même dans cette situation où tu es dos au mur, où parfois tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir et qu'il n'y a aucune issue, celui qui a iman bil ghaib, foi en l'invisible, et qui sait que tout vient d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah est, quel nom d'Allah on a vu hier, qui montre qu'Allah est bienveillant envers ses créatures, latif. Et qu'on arrive à intégrer le fait qu'Allah est latifum bi'ibadi, est bienveillant envers ses créatures, et qu'il leur prédestine parfois des situations difficiles pour qu'ils reviennent vers lui, ben, cette personne qui a développé, qui a atteint ce haut degré de iman, il pourra s'en sortir par cette confiance qu'il place en Allah Rabbul Izza, et il prendra comme exemple, et on avait vu, on a vu que chaque prophète d'une façon générale sont des modèles pour nous. Maintenant, dans la capacité à placer sa confiance en Allah, nous avons aussi des exemples, et on a vu les prophètes modèles pour nous dans des situations d'épreuve avec Ayyub alayhi salam, Prophète sallallahu alayhi salam, Moussa alayhi salam et Yusuf alayhi salam. Maintenant, dans la capacité à placer leur confiance en Allah, dans des situations extrêmes où tout semble perdu, nous avons par exemple ce prophète qui était face à la mer. Comment il s'appelait? Facile quand même. Hein? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal de prendre qui? Les Banu? Banu Israël, qui étaient extrêmement nombreux. Et de les retirer de l'esclavage de Pharaon et de les amener dans cette direction. Et là, c'était la direction de la mer. Moussa alayhi salam arrive près des vagues, accompagné de son frère Haroun alayhi salam. Et là, les Banu Israël, qui étaient un peuple traumatisé, les Banu Israël, un peuple qui a grandi dans l'esclavage de Pharaon. Donc c'est des gens qui n'arrivaient pas vraiment à penser par eux-mêmes. C'était des gens craintifs, qui avaient peur de tout. C'était leur nature. Et donc, il se pose des questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Vous savez, quand quelqu'un n'a pas iman solide dans le cœur, la personne doute. Alors que Moussa alayhi salam était confiant, alors que c'était lui qui était au premier rang, oui ou non, le qaïd, le dirigeant, il est toujours devant. C'est lui qui est près des vagues. Et il y avait un membre des Banu Israël qui a essayé d'avancer avec son cheval pour voir la mer et tester, et il est retourné. Il s'est rendu compte, c'est la mer, donc il n'y avait rien de spécial. Et il voit devant eux la mer, il voit à droite, il y a des montagnes. Et à gauche, il y a des montagnes aussi. Et derrière, ils entendent qui ? L'armée de Pharaon qui s'approche. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, explique que l'armée de Pharaon était composée de près d'un million de combattants. Et ils arrivent. La plus grande armée au monde à cette époque. Le tyran, le roi le plus puissant au monde à cette époque. Et là, les Banu Israël demandent à Moussa alayhi salam, « Oh Moussa, est-ce que tu es sûr que ton Dieu, que ton Seigneur t'a demandé de nous amener ici ?» Et il a dit, « Jure par Allah que c'est là que nous devons être. » Alors que la situation, elle semble totalement coincée. La situation semble coincée, il n'y a pas d'issue, au sens propre et au sens figuré. Et là, Allah Azza wa Jal, après, on ne va pas développer l'histoire de Moussa alayhi salam, hein, bien sûr, même si on est en train de le faire légèrement. Allah Rabbul Azza ordonne à Moussa alayhi salam de frapper la main. Anidrib bi'asakal. J'ai pas entendu. Al-Bahr. Anidrib bi'asakal bahr. Et Moussa alayhi salam frappe la mer de son bâton et la mer fanfalaqa. La mer s'ouvre. Et dans ce passage, Allah ordonne à Moussa alayhi salam d'avancer avec les Banu Israël. Et les Banu Israël, ils étaient des centaines de milliers. Ils avancent, ils arrivent à l'autre bout et ils sont sauvés. On peut penser que c'est terminé. On peut penser que c'est la grande victoire. Moussa alayhi salam, ce qu'on retient là de cette première étape, c'est que Moussa alayhi salam n'a pas douté une seconde d'Allah Azza wa Jal. Il savait que Allah l'a révélé et Allah ne prescrit que le bien. Et souvent, Allah te teste jusqu'à la limite, jusqu'à ce que l'être humain peut supporter. Jamais, jamais Allah n'éprouve une personne au-dessus de sa capacité, jamais de la vie. Car Allah, ça il faut complètement enlever de notre tête, hein, si on a des mauvaises pensées de shaitan des fois, Allah ne veut jamais du mal pour nous, jamais de la vie. Allah ne prédestine jamais quelque chose qui sera mauvais pour enfoncer, détruire une personne, non. Ce sont des situations d'épreuve. Et si on veut bien comprendre tout ça, on n'a qu'à lire l'histoire des prophètes, où on a des situations d'épreuve extrêmes. On revient à l'histoire de Moussa alayhi salam. Les Banu Israël arrivent très loin. Ils pensent être sauvés. Mais le problème, il y a un autre problème qui arrive. Pharaon prend le même chemin. Et là, Moussa alayhi salam, il ne fait rien. Car il n'agit que par ordre d'Allah. On va aller un peu plus vite parce que on va avancer dans ce verset. Et certains pensaient que s'il refrappait la mer de son bâton, la mer se refermerait. Et donc, les Banu Israël sont éloignés et eux, ils sont sauvés, c'est bon. Mais Moussa alayhi salam savait qu'Allah a prévu quelque chose qui dépasse ce que la pensée humaine peut concevoir. Parce qu'imaginez que ça se passait comme ça. La mer se referme et ils sont sauvés. Mais ils sont sauvés, ce n'est que partie remise. C'est une grande armée, ils trouveront les moyens, les navires et ainsi de suite, dans quelques jours, dans quelques semaines, pour aller retrouver Moussa alayhi salam. Et le problème restera intact. Allah Azza wa Jalla, sa hikmah, laisse les choses comme ça. Et Pharaon prend le même chemin. Et voyez, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Voyez comment Pharaon était ancré dans son coufre. Nous on dit on a besoin d'être ancré dans notre foi, avoir des valeurs très fortes, mais lui était dans son coufre tout en connaissant la vérité. Il savait que Moussa était prophète d'Allah. Mais il avait quoi, Pharaon? Pourquoi Pharaon n'acceptait pas la religion de Moussa alayhi salam? Parce qu'il avait un trône. Il avait un trône. Il avait un royaume. Il ne voulait pas perdre ce royaume.
Il sait que s'il se soumettait à Moussa alayhi salam, il perdait tout ça. Tout comme, parenthèse, les chefs de Quraysh, ils savaient que le prophète sallam était dans la vérité. Mais s'il suivait Aja'al al-Alihata ilahan wahida, il ne voulait pas. Parce que si il reconnaissait que Allat, Al-Uzza, Omanat et ainsi de suite ne sont que des divinités, enfin des statues batil, Tarout, et qu'il faut revenir vers Allah l'unique, les Quraysh perdaient leur statut par rapport aux Arabes, parce qu'ils étaient responsables de toutes les idoles autour de la Kaaba. C'était une histoire politique et d'honneur et de fierté. Parce que côtoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était un homme qui était au-dessus de tous. Il savait que c'était un homme exceptionnel. Personne n'avait quoi que ce soit à lui reprocher. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit concernant la moindre décision, la moindre parole qu'il a prononcée durant toute sa vie, même avant de devenir prophète, parce qu'il était mahfouz, protégé par Allah. On revient à Pharaon. Donc il, quand il avance dans la mer et il dit, voyez son coufre, comment il, je disais, il était ancré dans son coufre, il ose dire à son armée, voyez, moi Pharaon, je vous invite à traverser. Voyez la mer qui s'est ouverte pour moi. C'est-à-dire que son shaitan s'est adapté à la situation. Un shaitan flexible. Et il avance. Et là, les Banu Israël, ils angoissent parce que voilà, ils arrivent. Donc, en finalité, le problème a été décalé de 20 minutes, pas plus. Ils arrivent de nouveau. Et c'est lorsque Pharaon, vous savez le verset, Wamakaru, Wamakarallah, de façon générale. Parfois, vos ennemis, les ennemis, ils ont un plan. Mais ce qu'Allah a préparé dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Il avance avec son armée, millions de cavaliers. Et lorsqu'ils sont tous dans la mer, c'est-à-dire, ils marchent, ils ont les pieds sur la terre ferme, mais dans la mer, c'est là qu'Allah Azza wa Jalla ordonne à Moussa alayhi salam de frapper la mer de son bâton. Et là, la mer se referme. Et ils vont tous périr, noyé du premier jusqu'au dernier. Même les fils et la famille noble de Pharaon, ceux qui devaient être un jour roi après lui, eux aussi meurent. C'est-à-dire que Allah a éradiqué le moulk de Pharaon en quelques instants. Et c'était là An-Najat, c'était là la lettre d'Allah Azza wa Jal qui était totale et qui dépassait ce que les Banu Israël pouvaient espérer. Donc, ce n'était pas prévu, mais on y est. Être capable de placer sa confiance en Allah comme les Anbiya alayhi salatu wa salam. Deuxième exemple, je regarde juste mon chronomètre. Autre prophète alayhi salam qui, face à une situation extrême, garde une confiance mais inébranlable en Allah Azza wa Jal. Qui nous donne le nom de ce prophète? Ayyub, bien sûr, mais il y en a énormément. Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam va être jeté dans le feu, vous savez l'histoire de la catapulte. Ils ont catapulté le prophète Ibrahim alayhi salam, et alors qu'il était jeté, il était projeté, ils avaient fait un feu immense que même les oiseaux ne pouvaient pas voler au-dessus. On connaît l'histoire. À cet instant, il y a un ange qui lui demande est-ce qu'il a besoin d'aide. Il a dit que non, c'est Allah qui va me sauver et protéger. Et lorsqu'il atterrit dans ce feu, Qulna ya naru kuni comment? Bardan. Bard, c'est froid. Wassalama. C'est pas que froid. Parce qu'on peut, quand on a chaud et qu'on allume la clim, ça peut être bardan, mais pas forcément salama. Parfois, s'il fait trop froid, ça vous donne des douleurs, c'est perturbant, et ainsi de suite. Là, c'était un froid agréable. Ibrahim Assam dit que je n'ai jamais connu un moment aussi agréable que pendant les jours où j'étais dans le feu. Ajib, ça. Et là, le père d'Ibrahim alayhi salam, qui s'appelait comment? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر. Il regarde son fils Ibrahim et il dit à Ibrahim, il dit que ton Seigneur est extraordinaire. Ton Dieu, il est extraordinaire. Il reconnaît que c'est haq. Donc ces prophètes ont placé leur confiance en Allah de façon sublime. Et ils sont un exemple pour nous. Le verset où on parle d'Ibrahim al-Salam, qui est uswa pour nous aussi, le verset, je cherchais hier, je n'ai pas trouvé. Par exemple, c'est la Qadkan à la conférence de uswatun hasana. Et pour Ibrahim, il y a un verset aussi. Je suis sûr que le cheikh va trouver dans 14 secondes, Inch'Allah. Donc voilà, ça, tout ça, tout ça, toutes ces leçons qu'on est en train d'énumérer depuis 3 jours, la suite seconde. Toutes ces leçons qu'on est en train d'énumérer depuis 3 jours, ça découle de iman bil ghaib, croire en l'invisible, croire en Allah, croire en sa puissance, en sa promesse, avoir une conviction inébranlable. Après, il y a autre chose également, c'est accepter les décisions d'Allah, même si des fois ça fait mal. Même si, ça on a vu, le destin, on appelle ça at-taqdir al-mu'lima, le destin qui est parfois difficile à accepter quand tu as des épreuves, mais également concernant l'organisation de la Ummah et du monde de façon générale, c'est-à-dire quand il y a de grandes injustices. Iman bil ghaib, croire en l'invisible, croire en Allah, husnudhanni billah. On a déjà entendu cette expression peut-être, non? Avoir une pensée positive à propos d'Allah, toujours pensée positive, que ce que mon Seigneur a décrété, il y a un grand khair dedans, il y a un grand bien dedans. Donc ça, c'est une conviction qui découle de iman bil ghaib, de la confiance en Allah entre autres, et qui nous permet d'éviter des paroles ou des pensées graves. D'accord ? Il y a parfois des gens qui ne veulent pas croire en Dieu. Ils disent que oui, vous dites vous croyez en un Dieu unique, d'accord ? Un Dieu qui est bienfaisant, miséricordieux, qui est amour. Et là, ils englobent toutes les religions dedans, l'islam, la religion catholique et tout. Et disent oui, mais ce Dieu-là, s'il était vraiment comme ça, na'oudou billah, c'est kalimatul kufr, ça, mais je le dis pour qu'on comprenne. S'il était vraiment clément et miséricordieux, il était amour. Pourquoi en Éthiopie ? Pourquoi dans tel endroit, dans tel pays au monde, les gens meurent de faim ? Pourquoi est-ce qu'il laisse ses créatures mourir de faim et de soif? Vous êtes sûr que votre Dieu est clément, miséricordieux? Moi, je n'y crois pas. N'a'oudou billah. C'est-à-dire que par un raisonnement humain, ils vont renier le Créateur. Alors que Mu'min, pas Sa'di, Ibn Kathir, rahimahullah, il le rappelle que c'est une croyance, non, pardon, c'est Sa'di, et c'est une telle yaqin, une telle conviction en Allah, que même s'il y a des choses qui se passent que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je ne suis pas fait pour le comprendre. Mais, ou fawidu amri ilallah, tu t'en remets à Allah, Allah a décidé, il y a un grand khair. Ben, hier, on n'a pas cité le décès d'Abu Lahab. On en a parlé. C'était vraiment quelque chose qui était difficile pour le prophète alayhi salatu wasalam, de savoir que son oncle allait mourir sans iman et aller dans le jahannam. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce qu'Allah ne l'a pas donné la guidée? C'est Allah qui connaît les choses. Allah le connaît, Allah Rabbul Izzah l'a prédestiné et c'est la décision d'Allah, sans remettre à Allah. Même si pour nous ça paraît incohérent, na'oudou billah, ou c'est quelque chose que je n'arrive peut-être pas à intégrer. Et de cette façon, on arrive à décrypter et à accepter toutes les situations de notre vie. Et avec ça, vous voyez comment ça peut aller très loin, le iman bil ghaib, ça peut t'amener à une tazkiya intérieure, une purification de ton cœur des maladies spirituelles. Quand j'accepte toutes les décisions d'Allah, ça me permet d'évacuer la jalousie. La jalousie qui est quelque chose de grave, qui consomme tes bonnes actions. Mais quand je vois quelqu'un qui a plus de bienfaits, je me dis que c'est Allah qui a pris la décision. Allah a décidé de l'accorder, il ne m'a pas donné autant, c'est pas grave. Tout est dans les mains d'Allah. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce croyant qui dit que oui, je place ma confiance en Allah quand tout va bien. Quand tout va bien, je suis le bon moumine, là, présent et tout. Mais quand il y a un problème, là, il rôde un coupable partout. Pourquoi moi, ainsi de suite. Non. Le mu'min, c'est dans toutes les situations, sarra ou barra. Il s'en remet à Allah, il accepte la décision d'Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs, le prophète nous a dit, et puis je conclue, Al-Nabi Hassan nous a dit que ajaban li amri al-mu'min, la situation du croyant, elle est impressionnante, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Wa ma dhalika illa li-mu'min. Et ça, c'est uniquement pour le mu'min. Lorsqu'Allah l'éprouve, par une difficulté, sabara. Sabara, ça veut dire quoi? Il fait preuve de patience. Il y a un grand bien pour lui. La patience dans l'épreuve, tout le monde le sait. Et on en a déjà parlé, il y a un grand khair. Et quand Allah l'accorde un bienfait, shakara. Ça veut dire quoi, shakara? Il remercie. Fakana khair, il y a un bien pour lui. C'est-à-dire dans toutes les situations, que tu sois éprouvé ou que tu sois honoré par un bienfait, le cœur est toujours avec Allah Azza wa Jal. Un cœur rempli d'humilité. et qui accepte la décision d'Allah. Quand c'est dur, on s'en remet à lui, on fait doua qu'Allah nous vienne en aide. Quand c'est un bienfait, on apprécie et on remercie Allah Azza wa Jal, et on est convaincu que ça, ça vient pas de moi. C'est pas parce que je suis beau, parce que j'ai fait des études ou parce que ainsi de suite. Non, Allah m'a donné un ni'ma, ça vient de lui. Ashkurullah. Et j'utilise ce bienfait dans, c'est-à-dire ça t'apporte un équilibre dans la vie. Équilibre spirituel, mais équilibre également psychologique. Vous savez, les gens qui sont remplis de haine, de méchanceté, de jalousie, ainsi de suite, là, c'est des gens déséquilibrés, ça, mentalement. Parce qu'ils ont l'esprit tordu, comme dit l'expression. On dresse peut-être, on dit qu'on a l'esprit tordu. Voilà, merci. Ils ont l'esprit, non, ils ont l'esprit tordu. C'est-à-dire qu'ils voient le mal partout. Ils voient le mal partout. C'est-à-dire que mentalement, ils sont déséquilibrés. C'est parce que spirituellement, il y a des failles de leur iman qui fait qu'ils n'acceptent pas que quelqu'un a quelque chose qu'il n'a pas. Ils n'acceptent pas que lui, il a réussi alors que moi, je n'ai pas réussi. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre à Allah Azza wa Jal totalement. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et demain, on va voir, là on était avec As-Sa'adi, demain on passe exclusivement à Ibn Kathir, rahimahullah, qui va nous... qui a commenté ce verset en rappelant un hadith où le Prophète sallam cite les bienfaits de personnes qui vont venir après lui, qui n'auront pas vu le Coran révélé, qui ne l'auront pas vu lui, mais qui auront iman sur tout ce qu'il a apporté. Le Prophète sallam parle de nous. Des gens qui n'ont pas vu le wahi, mais qui croient en lui, et ça nous permettra de reprendre un peu confiance d'une certaine façon et de voir qu'on n'est pas aussi mauvais que ça, mashallah. Il y a du bien et on peut faire des choses énormes si vraiment on a un iman qui est vraiment renforcé, qu'Allah Azza wa Jal nous accepte. Et après, par la suite, demain on ne sera pas là. Demain c'est Mouana Ahmed, non, Mouana Bachir qui fera le programme. Jeudi on verra ça, inshallah. Et puis on passera à un autre verset par la suite. Là on a parlé de iman, de tout ce qui est batin dedans. Alladhina yu'minuna bil ghayb, c'est dedans. Et on verra maintenant les a'mal zahira wa yuqimuna as-salah, et on verra le sens profond de la salat. Tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.